territoire de Chavannes relativement disponible pour une raison historique, c'est que la commune de Chavannes offrait des terres particulièrement propices aux pépinières. Vous avez peut-être remarqué, ou vous allez le remarquer, que historiquement, de nombreux pépiniéristes s'étaient installés à Chavannes parce que, pour des raisons géologiques, pédologiques, il se trouvait que c'était des terres favorables pour exercer aussi des terres maraîchères importantes pour exercer cette activité. Or donc, c'est resté pendant de longues années libre de construction parce que ces pépiniéristes avaient besoin de grands terrains pour exercer leur activité. Et puis naturellement, comme toutes les choses bougent, il s'est trouvé qu'au fil du temps, eh bien, ces pépiniéristes, d'une part, étaient devenus des personnes âgées et n'avaient plus tellement l'intention de poursuivre leur activité, ou n'avaient en tout cas pas de successeur. Et puis que dans le fond, ils ont rapidement compris, ça c'est l'aspect commercial de la chose, rapidement compris que ça pouvait devenir des terrains à bâtir extrêmement intéressants et profitables, et que de vendre des milliers de mètres carrés au prix des terrains à bâtir dans Chavannes qui se développait à une grande vitesse, c'était une opportunité extrêmement intéressante, d'où le quartier du cœur de Chavannes qu'on va tout à l'heure côtoyer. Et pour revenir à Villars-Perrier, cette pression immobilière sur les terrains vides ou sur les terrains bâtis était très forte au point où l'agence immobilière qui gérait les bâtiments Perrier à l'époque avait imaginé un scénario de démolir l'ensemble de tous ces bâtiments et puis réaliser des immeubles d'habitation standard, traditionnel, etc. Et c'est vrai que ce projet que j'ai vu, que, malheureusement j'ai pas pu mettre la main dessus, j'ai passé avant de venir ici à la commune pour voir dans leurs archives s'ils avaient des documents, mais en tout cas, comme ça, rapidement, je n'ai pas pu mettre la main sur des documents historiques qui relataient ou qui montraient ce projet immobilier. Toujours est-il que ce projet immobilier a naturellement alerté une quantité de gens qui occupaient ces locaux, des artistes comme Jean-Claude Schoenberg, comme Scherer, des artistes quand même connus. Comme je disais tout à l'heure, il y avait aussi le Conservatoire de Lausanne qui avait des salles pour les exercices, notamment de théâtre. Et il y avait des artisans, il y avait un ferronnier qui faisait des voitures, il y avait même des coutre-pointes, des courtes pointières, qui sont des dames qui faisaient des rideaux, notamment. Bref, il y avait donc toute une activité qu'on trouve nulle part ailleurs, parce que c'était des locaux qui étaient extrêmement sommaires, pas de chauffage, pas très peu de confort. Donc effectivement, c'était l'idéal pour accueillir des artistes, des artisans, etc. Comme je connaissais une partie de cette population, j'ai été, en tant qu'urbaniste de la commune de Chavannes, alerté par ses occupants pour me faire dire il faut engager quelque chose, il faut mettre en œuvre une stratégie qui permettra de sauvegarder ce lieu pour des multitudes de raisons. Pour des raisons économiques, pour eux, ça va de soi, mais au-delà de ce regard purement limité à leur confort ou à leur satisfaction d'être là, c'était le fait de dire c'est un lieu qui mérite, du point de vue de sa mémoire, de son activité industrielle, d'être conservé. C'est des bâtiments de grande qualité. Et qu'est-ce qu'on peut faire?
Quand on dit grande qualité, c'est au niveau des volumes.
Oui, c'est ça. Pas des matériaux. Non, parce que c'est quand même, on ne construirait plus comme ça maintenant. Ouais. Ça va de soi. Dès lors, il y a eu, comme toujours dans ces événements, des multitudes de discussions, bien sûr. Hein, ça ne se fait pas comme ça. Ça se fait autour d'une table, mais pas en 5 minutes, parce qu'il faut discuter avec les représentants du propriétaire. Le propriétaire, il a d'autres intérêts, évidemment, que de conserver ses bâtiments. Et puis, la commune a commencé à comprendre que c'était intéressant de mettre en évidence sa politique d'aménagement pour dire non seulement on développe des quartiers d'habitation, mais on est encore capable de sauvegarder des sites industriels et puis d'accueillir une population diversifiée comme celle qui vient chez nous, qui sont une population très ouvrière à Chavannes, mais aussi des artistes, des lieux de vie intéressants pour le melting pot culturel que doit représenter une commune. Alors après, il fallait trouver les moyens de sauvegarder ces bâtiments. Alors, je ne vais pas vous faire un cours d'urbanisme maintenant, ça vous casserait les pieds, puis ce n'est pas probablement le but de l'opération. Il existe un certain nombre de démarches qui sont inscrites dans les différentes lois de l'aménagement du territoire et qui permettent d'engager des procédures qui visent à sauvegarder des lieux. Alors il y a évidemment des sauvegardes de bâtiments qui sont classés monuments d'intérêt national, Château Chillon pour prendre quelque chose que tout le monde connaît. Mais il y a bien d'autres bâtiments qui sont classés monuments d'intérêt national et qui sont sauvegardés par des types de mesures spécifiques, mais qui sont des mesures spécifiques qui sont propres à des bâtiments de cette nature-là. On ne pouvait pas utiliser les mêmes outils juridiques pour sauvegarder un site comme Villa Perrier parce que ce n'est pas des bâtiments qui sont inscrits au patrimoine national et qui sont donc couverts par un système de sauvegarde. Donc le système de sauvegarde qu'on a pu imaginer, ce n'était pas non plus une intervention du service de la conservation des bâtiments du canton. Le canton de Vaud a fait tout un inventaire, il s'appelle le recensement architectural, et dans le cadre de ce recensement architectural, nous en avons fait quelques-uns nous-mêmes, il se trouve que c'était un moyen d'abord d'identifier tous les bâtiments intéressants du canton, d'une part, et puis d'autre part, si des bâtiments intéressants non couverts par la protection de bâtiments d'intérêt national, il y a des notes qui sont attribuées dans ce recensement, qui vont de hors classe pour Château de Chillon à 1, 2, 3, jusqu'à 7 des bâtiments qui dénaturent le site. Et donc, dans cette catégorie de bâtiments 1, 2, 3, on peut prendre des mesures de sauvegarde, voire même d'inscription d'un bâtiment qui serait noté 1, 2 ou 3, et de l'inscrire comme monument historique, et dès lors, il est protégé. Et là aussi, pour les bâtiments de Villars-Perrier, aucun des bâtiments ne tombe dans cette catégorie 1, 2 ou 3, parce que vous l'avez probablement vu, ce n'est pas une expression architecturale, ce n'est pas une grammaire architecturale à ce point-là intéressante que ça mérite une protection. Donc, finalement, le moyen d'arriver à protéger ces bâtiments était la mise en œuvre d'une procédure de plan spécial, plan de quartier pour dire les choses comme ça, plan de quartier permettant en accord avec le propriétaire toujours, puisque le fonds est resté privé, en accord avec le propriétaire, de l'amener à imaginer que ça pouvait être intéressant de sauvegarder ces bâtiments par le biais d'un plan spécial. Ce n'est pas forcément un discours facile à faire passer face à des gens qui sont intéressés par l'argent, et dans le fond, qui découvrent très vite que le fait de sauvegarder ces bâtiments actuels ici n'ont pas, du point de vue du rendement, la même valeur que des nouveaux bâtiments qui auront évidemment plus de densité, plus de possibilités de rendement, et par conséquent qui étaient pour eux plus intéressants. Villars-Perrier, à cette époque, avait, je ne sais pas si c'est toujours le cas, avait cruellement besoin d'argent parce qu'il y avait une grande mutation dans leur système de production. Ils avaient même exporté une partie de la production en France. Donc ils avaient vraiment besoin d'argent. Et
ça, on est au début des années 90.
On est au début des années 90, oui. Et on a donc conduit, c'est pas nous qui avons fait le plan, mais on a conduit l'élaboration de ce plan. Je peux vous le montrer, mais pas vous le laisser. Je vais vous faire quelques commentaires sur ce plan. Vous savez lire les plans. Oui. Voilà. Alors, vous avez un plan de situation ici qui nous montre, un peu à cette échelle-là où nous sommes. On voit donc ici l'avenue de la gare, hein, la rue qui est là. Ici, il y a tout un projet que nous avons fait alors et qui permet de valoriser cette cour dans laquelle nous étions. Bon, j'ai vu que malheureusement, par rapport à ce qu'on avait demandé, elle est toujours envahie de bagnoles, alors que ce serait possible peut-être de virer les bagnoles ailleurs. Bref, toujours est-il que face à cet axe ici, on a fait une place qui va devenir, qui est en chantier aujourd'hui, place publique qui est entourée, qui sera entourée de commerce, il y a un bistrot qui va venir s'installer. Donc il y a une sorte de mise en valeur, si vous voulez, des deux. Une rue, c'est toujours deux côtés. Hein. Pour que ce soit une rue, il faut qu'il y ait deux côtés, puis que ces deux côtés soient bâtis. Donc pour donner une réponse à cette construction de Villars-Perrier, on a trouvé un espace libre qui est la place, mais également des constructions qui viennent, dans le fond, enjamber l'avenue de la gare et puis se développer sur ce site-là. Alors pour revenir ici à cette échelle plus grande, on voit un plan, mais qui est un plan masse, hein. On voit l'avenue de la gare, on voit l'entrée dans Villars-Perrier qui se trouve sous les bâtiments qui sont cerclés par ce trait noir. Alors, l'intérêt de ce plan, c'est de voir tout de suite que tous les bâtiments qui sont cerclés par ce trait noir, ça, et où nous étions ici, où il y a le projet d'installation du bureau Pont 12, ces bâtiments sont protégés par ce plan. Ce plan et son règlement fixent très clairement le fait qu'on ne peut pas démolir ces bâtiments. Ils peuvent être réhabilités, ce qui est le cas ici, mais on ne peut pas démolir et reconstruire. Donc, c'est la mesure la plus importante qui a été prise. D'autre part, on ne peut pas changer la géométrie de ces bâtiments. Vous voyez que ce trait noir, il suit les façades des bâtiments et également, il prend en charge les petites cours hein, où on s'est introduit pour venir dans ce local ici. Ces petites cours sont également protégées. On ne peut pas venir construire à l'intérieur de ces petites cours et on ne peut pas faire déborder une façade au-delà du trait noir qui indique ces bâtiments-là. Donc, ce dispositif-là, en plan, est accompagné d'un règlement qu'on pourrait éventuellement voir tout à l'heure. Alors, c'était d'autant plus important de faire ça que ce qu'il faut savoir, c'est que les ingénieurs, ça existe, hein, font des routes et des autoroutes et tout ça. Ils ont la manie de vouloir faire des autoroutes un peu partout. Et puis, ils avaient fixé, parce que c'est dans la loi sur les routes, fixé des alignements qui amputaient ces bâtiments. Donc ici, vous voyez un trait rouge, c'est le nouvel alignement. On a imposé que ces alignements-là viennent modifier les anciens alignements qui passaient, non pas au milieu des bâtiments, mais presque, et qui présupposait qu'on allait élargir la route, et donc pour l'élargir, qu'on allait démolir ces bâtiments. Donc il y avait deux menaces sur ces bâtiments, la menace immobilière et la menace un petit peu surréaliste d'élargir tout ce réseau routier pour en faire on ne sait pas quoi. Mais c'est vrai qu'à une époque, c'était à cette époque-là, c'était le tout bagnole. Hein. Ce n'est plus votre temps et votre regard que vous avez maintenant. On est plutôt mobilité douce, piéton, machin. Mais à cette époque-là, il y avait des ingénieurs qui étaient très spécialisés dans la bagnole, qui s'amusaient même à les compter. Ça, on fait toujours, mais avec des ambitions différentes. Et puis qui, dans le fond, on avait guerre de regard sur le bâti. Et c'était effarant ici, mais on a dans des villages du canton de Vaud, mais c'était effrayant. Les alignements, les visions que ces ingénieurs du service des routes avaient.
Mais ça remonte loin. Hein. Enfin, si je prends le cas de Ferrer.
Il y a des alignements, je pense, de 1920.
Il y a la vieille route, ouais. Plus ancienne. Hein. Il y a la vieille route qui passe dans le village, et puis la route cantonale qui date de la fin du 19e, 1870, ça fait rare. Elle scie une baraque. Hein.
ouais, c'était vraiment.
La maison, elle est sur la route, ça scie, et ils ont coupé la baraque. Quoi. Et ça, c'est fin du 19e. Ouais.
Donc il y avait. Les lois, elles évoluent tout le temps. Donc, on arrive aussi à faire évoluer ces mentalités. Donc, architectes, urbanistes, politiciens, etc. Tout ce petit monde, quand même, concerné par une autre vision du mode de déplacement aux bagnoles, on renonce peut-être plus facilement, et surtout dans des coins comme ça, d'élargir des routes. Donc, on arrive à faire passer un autre message. Et, dans le fond, la réponse de ce nouveau message, c'est de dire il n'y a plus d'alignements qui viennent amputer les bâtiments. Les alignements passent par les façades des bâtiments, ce qui confirme, dans le fond, ce plan-là, où on voit qu'effectivement, il y a cohérence entre la sauvegarde des bâtiments qui vont jusqu'au droit de la rue et la limite des constructions aussi fixée au droit de la rue. Ce plan, il montre aussi deux choses. Il montre en rouge des bâtiments. On les a vus quand on était... Ben, on a passé ici. Hein. C'est les petits bâtiments un peu vétustes. Là, il y a un bâtiment aujourd'hui, c'est des logements aussi assez vétustes qui existent. L'idée, c'est que ces bâtiments-là n'ont pas, je dirais, le même mérite que tous ceux-là. Donc, ils pouvaient et ils peuvent, avec ce plan, être démolis et reconstruits dans la zone indiquée en rouge. Donc, ça vient compléter l'alignement à l'intérieur du parcours central. Et puis, ça permet aussi une meilleure utilisation du sol que le bâtiment qu'on voit en hachure par transparence par rapport au rouge. Le bâtiment qui existe ici est censé être... Quand tout ceci est construit, le constructeur de ce groupe de bâtiments doit démolir impérativement le bâtiment qui est là afin de créer un petit lieu de cours, d'étente pour les habitants qui viendraient s'installer là. Il y a la même attitude pour ce bâtiment-là. Il y a des bâtiments relativement sans intérêt qui peuvent être démolis et reconstruits selon ce gabarit teinté en rouge. Je trouve cet exemple intéressant parce qu'il montre aussi que les mesures de sauvegarde intégrale sont rarement possibles parce que c'est toujours une négociation avec le propriétaire. Donc le propriétaire dit « Ok, vous sauvegardez tous ces bâtiments, mais j'aimerais aussi pouvoir ces bâtiments-là, j'ai aucun rendement, il faut me trouver une solution. Je suis d'accord avec ça, si vous me trouvez une solution qui me permet quelque part de me retrouver financièrement, au moins avec un rendement intéressant par rapport à ce site. » Pour arriver à tel résultat, il y a une procédure. Il y a une procédure légale qui veut qu'un tel projet, ça se fait forcément avec les services cantonaux. Hein. Il y a beaucoup de démarches itératives avec les services du canton.
C'est itératif, ça veut dire
qu'il y a, ça veut dire qu'il y a un dialogue avec les services cantonaux et nous. C'est mis à l'enquête publique. Ça génère des oppositions, parfois énormément, parfois peu. Il faut traiter ces oppositions. Et vous le savez, il y a un exécutif, un législatif dans toutes les communes. Et là, le conseil communal, en tant qu'organe législatif, se prononce sur le plan, sur le règlement, sur les réponses qu'on aura données aux oppositions. C'est donc approuvé par le conseil communal et ensuite c'est soumis à l'approbation du canton. Donc cette approbation du canton qui scelle finalement la protection de ces bâtiments telle qu'elle est définie par le plan et le règlement, mais vous voyez, ça date de, j'arrive pas à dire, 94. Donc depuis 94, ce plan est en vigueur et permet la sauvegarde de cet ensemble de Villars-Perrier.